Bonjour, enchanté. Bonjour. Je fais un sujet sur la difficulté de chauffer les logements. Et j'ai entendu dire que dans ce bâtiment, c'était
j'avoue
un petit
ce bâtiment-là, bonne chance.
C'est un fléau qui s'immisce derrière nos murs, sous nos portes. Le froid et l'humidité se glissent dans les appartements mal isolés, les maisons insalubres. En France, 3,9 millions de logements sont des passoires énergétiques, des habitats très énergivores qui ne parviennent pas à contenir une chaleur suffisante pour que leurs habitants puissent passer l'hiver confortablement.
Le matin, il fait très très froid. Pourquoi on dirait un congélateur, carrément.
Le mal chauffage fait frissonner, il empêche de dormir, cause des maladies respiratoires, sape les petits revenus.
C'est pour ça la facture, toujours, normalement, entre 250 et 300.
Bien souvent, précarité énergétique rime avec précarité sanitaire et budgétaire.
Toujours la température reste en bas, parce que sans isolation, il faut toujours régler jour et nuit. Pour l'humidité, ça sera en bas. On n'a pas le choix. Si on a le choix, on ne peut pas rester ici.
Vous écoutez Périphérie, un podcast de la section radio du QEJ. Passoire thermique, il fait si froid chez moi. Un épisode signé Marius Lafont.
Alors il est 17h, c'est la fin du mois de novembre, je pense que le thermomètre dépasse pas les 5 ou 6 degrés, et je suis au pied de la copropriété de la rue de Singrist, qui se trouve dans le quartier de la Montagne Verte, tout au sud de Strasbourg, à côté des voies ferrées. Il n'y a pas de porte d'entrée en bas de l'immeuble. Enfin, il y a l'encadrure, hein, mais physiquement, il n'y a plus de porte. Tout le monde peut rentrer et le froid s'en prive clairement pas. La cage d'escalier est glaciale. Vraiment, c'est très, très vétuste. Et c'est un peu à l'image de la façade, qui est très délabrée. La conséquence, c'est que le DPE, le diagnostic de performance énergétique des appartements, est très mauvais dans cet immeuble. Ça va de A à G. A, c'est très bien isolé. G, c'est complètement une passoire thermique. Et ici, beaucoup d'appartements sont en DPE F. C'est très mauvais. Et c'est tellement des passoires thermiques que les appartements avec ce DPE seront considérés comme indécents à partir de 2028. Les locataires de cette copropriété, ils sont dans la situation de 6 millions de Français. C'est la précarité énergétique. Devant l'immeuble, je rencontre une habitante anonyme. C'est une jeune maman. Et elle veut bien me faire rentrer chez elle.
Alors c'est 3 étages, en fait.
Eh ben allez, ça marche. Petit chauffage d'appoint donc ici.
Là la bombe fonctionne plus. Mais... Alors je vais commencer par l'endroit le pire. C'est la salle de bain.
Waouh, il fait très froid dans cette pièce.
Oui. Même ici, on ne peut pas réchauffer. On est toujours obligé de laisser aérer avec notre fenêtre entrouverte parce que ben sinon. L'humidité, elle s'accumule et ça nous donne encore plus de moisissures qu'on a déjà. Nous, ça fait 2 ans qu'on a galéré avec notre propriétaire pour avoir notre VMC, ce qui nous a donné toute la moisissure qu'on a là. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à avoir de la moisissure dans mon appartement, mon asthme s'est empiré. Et depuis qu'on a eu l'humidité, la moisissure, mon fils tombe malade presque toutes les semaines. Il nous fait des bronchiolites, rhinopharyngites, des bronchites. Là, on est dans la chambre de ma future fille. Là, on a de l'humidité tout le temps. À peine on ferme, on va avoir de l'humidité. La moquette, elle sera trempée. Notre rebord sera trempé. Tout ce qu'on aura dans la chambre sera trempé si on ne laisse pas aérer toute l'année. Il y a de l'air qui passe entre les joints.
Donc, votre radiateur, il est microscopique.
Voilà. Et en fait, c'est ce que je vous ai expliqué. Quand on allume notre chauffe-eau, on essaye de mettre les radiateurs. Le problème, c'est que l'aiguille elle va soit trop haut, soit trop bas, vu que c'est un très ancien chauffe-eau, ce qui fait qu'on n'arrive pas à réchauffer la pièce.
Et ça, c'est une situation que vous, personnellement, vous le vivez comment ?
Je le vis très mal. Je le vis très très mal parce que mon asthme, mes problèmes de santé, ils ont empiré. J'ai mon fils en jeu. J'ai ma fille aussi, j'accouche fin février, qui est en jeu. Donc je le vis très très mal parce que je ne supporte plus mon appartement. Là, je vais vous montrer la chambre. Ah oui, là, il chauffe. Si on n'allume pas ce petit chauffage d'appoint, Bah, la chambre, la pièce n'est pas réchauffée, donc on est encore obligé de laisser cette fenêtre ouverte pour ne pas avoir de moisissure. Sauf que ça me coûte très cher en électricité. Voilà, c'est très très cher.
Et c'est à peu près la seule pièce que vous chauffez à une température normale?
Oui, parce que pour l'instant, c'est là où on dort toute l'année avec mon fils. Comme ma fille n'est pas encore là, on essaye de chauffer un peu la chambre. Mais là, à partir du moment où ma fille sera là, on sera obligé de chauffer la chambre en priorité. Et cette chambre, la laisser comme ça, ou sinon devoir acheter un autre chauffage d'appoint. Et sauf qu'avec un chauffage d'appoint, on paye mes factures, ils augmentent, ils peuvent aller jusqu'à du 400-500 euros de facture juste avec un chauffage d'appoint. Donc on n'a pas le choix que de faire comme ça si on veut ne pas, de quand on parle, avoir carrément la buée qui sort de notre bouche, quoi. Par exemple, mon fils, j'ai déjà dû lui mettre collant, plus jogging, plus t-shirt manche longue, plus pull, pour qu'on soit sûr qu'il est chaud. Parce que sans ça, il aurait eu froid.
Les pilotes, c'était l'ambulance.
Pardon.
La police, c'était la police et la police.
Non, mon cœur.
C'est vrai que voilà. Tu le vois, il a un grand pull plaid.
Oui, on n'a pas le choix. Si on veut avoir un minimum chaud, on n'a pas le choix que de lui mettre un pull plaid pour qu'il ait un minimum chaud. Tu sors, Mimi?
Quoi?
Là, mon amour.
D'accord. Alors, on sent le froid.
Ouais, on sent qu'il fait froid. Voilà. Là, on arrive dans mon salon, salle à manger. Moi, il y a des moments où je marche pieds nus. J'ai l'impression d'avoir été dehors toute la journée en plein hiver avec de la neige et que les pieds sont endormis. Et c'est ce qui nous arrive avec notre carrelage. Le pire endroit. Voilà. Là, on a notre chauffe-eau qui est un ancien au point où en dessous, il est carrément rouillé. C'est très dangereux avec toute la rouille qu'il y a. On est toujours obligé de l'éteindre pour éviter toute fuite de gaz. Et pareil, encore une fois, l'humidité puisqu'on a nos volets qui ne se ferment pas. Voilà, on peut pas le fermer plus que ça. Si on ferme, pareil, encore là, je vous le ferme. Là, vous pouvez toucher, on voit l'air, on sent l'air qui sort. Les trois pièces les plus froides de notre appartement, c'est notre salon, notre cuisine et notre salle de bain.
Est-ce que ça vous arrive de vous endetter à cause de ces factures-là?
Ah oui, on a dû éviter de payer mon loyer à un moment donné. Ma curatelle a bloqué le loyer, vu que j'avais plus de 700 euros de facture d'électricité et de gaz. Et après, vous rajoutez mon loyer qui est à 764 euros. Et là, ma curatelle a carrément dit, le propriétaire, il fait rien, je suis désolée, moi je coupe le loyer, je ne paierai pas le loyer ce mois-ci. Et oui, ça m'a endettée parce que j'ai dû rattraper moi après. Nous, ça nous fait chier, désolée du mot, mais ça nous fait chier de devoir payer plus de 1000 euros de facture, alors que tes seuls revenus, c'est 1033. Nous, on est là, on reste comme des cons, à ne pas savoir comment se réchauffer, à s'inquiéter quand notre chauffe-eau est allumé. Je pense que j'ai quand même des droits pour essayer de soit payer la moitié du loyer, soit de ne pas payer tout court jusqu'à ce qu'il me règle tous les problèmes qu'il a à régler dans cet appartement. Parce que j'en ai marre de payer dans le vent. Voilà, on ne peut pas faire autrement.
Au revoir.
Au revoir.
Ça touche pas toutes les couches de la société de la même manière. Si vous avez moins de 35 ans, vous avez une chance sur deux d'être en précarité énergétique. Ça monte à 63% chez les agriculteurs, et 9 ouvriers sur 10 ont du mal à payer leur facture d'énergie. Mais vous l'avez entendu, à la Montagne Verte, les murs de l'appartement sont couverts de moisies à cause de l'humidité. Parce que vivre dans un appartement mal isolé et mal chauffé, c'est la double peine. On a froid, certes, mais aussi on respire mal. Au nouvel hôpital civil de Strasbourg, je rencontre une spécialiste de la pollution de l'air intérieur.
Audrey.
Bonjour.
Bonjour, enchantée. Je suis Audrey Dazy. Je fais un métier un peu particulier qui s'appelle le métier de conseiller en environnement intérieur. Et donc, je suis salariée des hôpitaux universitaires de Strasbourg et je suis rattachée au service d'allergologie. Quand on visite un appartement, ce qui est très important de faire, en fait, c'est de toucher les murs. En général, les problèmes de moisissure, c'est lié à un problème d'isolation. Donc, c'est toujours des murs en façade. Vous allez mettre votre main en hauteur et toucher le mur. En général, le mur est à température ambiante. Quand il y a des problèmes de moisissure, plus vous descendez votre main le long de ce mur, plus le mur va être froid, voire même au toucher, déjà, ça colle ou... où il y a des auréoles. Donc ça, c'est déjà un mauvais signe. Idéalement, la température, c'est 19 degrés. Quand on ne chauffe pas, il peut y avoir de la condensation. Typiquement, les gens ont de la buée sur les fenêtres, voire de l'eau qui ruisselle. Les premiers signes, c'est la peinture qui cloque, la tapisserie qui se décolle. Et en général, quand on décolle, on voit du brun, du noir ou des auréoles. C'est quand il y a des infiltrations en général.
C'est quoi les risques sanitaires à respirer dans une pièce où il y a de la moisissure?
Le problème des moisissures, c'est que ça va libérer des spores, donc des toutes petites particules. Comme elles sont toutes petites, elles vont aller bien au fond des poumons. Donc, en fait, ça libère des spores qui sont irritatives. Et donc, ces symptômes, c'est quoi? C'est des toux, ou alors ils ont des difficultés à respirer, type asthme. Après, les moisissures, c'est gênant, en fait, dès qu'on a n'importe quelle pathologie. Des gens qui sont immunodéprimés, qui ont des cancers, ils prennent ce qu'on appelle des immunosuppresseurs, donc ils ont le système immunitaire un peu fragile. S'ils respirent en plus des moisissures, bah, clairement, ça n'aide pas.
La précarité énergétique, vous, vous la voyez comment dans vos visites? Ça ressemble à quoi?
On la voit ces dernières années quand même de plus en plus. Avant-hier, j'étais en visite à domicile. Quand je suis rentrée dans le logement, j'ai eu très très froid. J'avais un appareil pour mesurer la température et l'humidité. Il faisait 11 degrés et 78% d'humidité. Il y avait un traducteur, c'est souvent des étrangers, hein, faut pas se voiler la face, qui était hébergé dans un logement par une association. Ils ont des aides, des APL donc pour payer le logement, mais par contre, il n'y a plus d'argent pour payer le chauffage, qui là était clairement un chauffage électrique grille-pain. Et en plus, le logement était d'une grande surface, donc il faut faire des choix, c'est manger ou chauffer. Et le choix, il est vite fait.
Le médiateur de l'énergie va dans le même sens. 35% des ménages déclarent avoir eu froid l'hiver dernier, contre 30% l'année d'avant, et seulement 14% en 2020. Surveiller l'évolution de la situation, imaginer des réglementations, des aides, prendre en compte la précarité énergétique dans la transition écologique, c'est le travail d'agences et d'observatoires, l'ADEME, le médiateur de l'énergie, l'Agence nationale de l'habitat ou l'Observatoire national de la précarité énergétique, mais c'est aussi le travail des scientifiques. Ils cherchent des solutions pour ne plus avoir froid chez soi. Je me rends à l'Université de Strasbourg, au troisième étage d'un bâtiment un peu austère de la fac de géographie. J'ai rendez-vous avec un chercheur spécialiste des stratégies énergétiques.
Alain Clapier, donc je suis professeur à l'Université de Strasbourg. Je travaille sur les problématiques liées aux stratégies énergétiques. Mes recherches portent plutôt sur quelles solutions on peut raisonnablement considérer pour alimenter une ville, une région ou un pays en énergie, de regarder les conséquences que ça a sur l'environnement, mais aussi sur les populations. On est obligé de considérer la possibilité de rénover des bâtiments, et là on est vraiment sur un domaine très stratégique, dans le sens où la consommation énergétique des bâtiments, c'est un des postes les plus importants avec le transport. Donc le fait de pouvoir rénover des bâtiments, c'est une manière d'économiser l'énergie, ça c'est très important. Après, le problème, c'est que les bâtiments, ça dure dans le temps beaucoup plus que les véhicules. Donc il va falloir faire appel à des aides de l'État pour aider les gens à rénover, parce qu'on ne peut pas facilement attendre que les bâtiments soient assez vieux pour les changer comme on le fait avec des véhicules. Et en France, en plus, on a la spécificité d'avoir eu une énergie nucléaire subventionnée pour faire face aux chocs pétroliers qui sont apparus dans les années 70-80. On a favorisé le chauffage électrique, ce qui n'est pas forcément le plus efficace énergétiquement parlant. Et comme le bâtiment est quelque chose qui dure dans le temps, eh bien on est encore tributaire des choix qui ont été faits précédemment.
Est-ce qu'un grand plan de rénovation énergétique du résidentiel va être nécessaire dans les années qui viennent?
Oui, ça a été promis déjà depuis plusieurs mandats de la présidence actuelle, et les promesses n'ont pas été tenues. L'effort qu'il y a à produire sur le résidentiel, c'est du long terme. Les vraies économies, c'est d'investir et d'attendre un retour sur investissement. Le retour sur investissement, c'est qu'en économisant l'énergie, notre facture énergétique, elle sera moins chère. Et là, en Alsace, on a la chance d'être dans une région qui fait des vrais efforts. On a une agence du climat qui fonctionne bien, qui donne des conseils de façon à ce que les personnes qui en ont besoin puissent monter des dossiers, pouvoir ainsi bénéficier des aides de l'État, de la région, tout ce qui est mis à disposition. Typiquement sur Strasbourg, il y a l'initiative qui a été prise par la municipalité de renforcer l'aspect chauffage urbain, vraiment une excellente initiative. On a affaire à des solutions très efficaces énergétiquement, qui peuvent utiliser des ressources renouvelables comme le bois pour créer de la chaleur, et puis surtout qui va distribuer cette chaleur. Ça réduit les coûts pour les locataires et ensuite pour la communauté, ça réduit les impacts sur l'environnement. Ça permet à la collectivité de faire les meilleurs choix sur les ressources énergétiques. Ouais. Mais ça demande une adaptation, des investissements et une volonté politique de le faire.
Comment les propriétaires au premier rang desquels les plus modestes vont-ils dans ces conditions améliorer la performance de leur logement sous peine de ne plus pouvoir les louer ?
L'annonce de la suspension brutale de MaPrimeRénov' a plongé tout le monde dans l'incertitude. On ne rénove pas, on reclasse, on triche avec des rustines de court terme.
La lutte contre la précarité énergétique est-elle en train de passer à la trappe ? Les coupes budgétaires n'ont pas épargné les aides, le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie a été levé en juillet, les factures n'ont pas encore flambé mais elles restent toujours à un niveau très élevé pour les ménages. Pour faire des économies et pour consommer moins, un rapport de l'État suggère aussi de supprimer le chèque énergie, alors que ce chèque aide plus de 5 millions de foyers modestes à payer leurs factures. Et puis le cas emblématique ou dramatique, c'est MaPrimeRénov'. Cette aide, elle finance des travaux de rénovation énergétique pour les logements qui ont un DPE E, F ou G. Elle est maintenue dans le budget 2026, mais avec plus de contraintes sur la sélection des dossiers. Et surtout, elle sera moins généreuse. Avant l'austérité, elle pouvait atteindre 70 000 euros pour des travaux d'isolation qui feraient gagner 3 classes de DPE à un logement. Mais à partir de maintenant, ce sera 40 000 euros, presque moitié moins. Peut-être que les politiques publiques grelottent elles aussi.
C'était Périphérie, un podcast de la section radio du QEJ. Cet épisode a été imaginé et fabriqué par Marius Lafont en novembre 2025. Coordination, Céline Asselot et Thomas Rozek. Mixage, Jean-Christophe Galen. Tous les épisodes sont à retrouver sur le site du QEJ, QEJ.info.